C'est la dernière commission Gravel-Fontaine. Isabelle, Hélène, bonjour, bon matin.
Bonjour à vous deux.
Et
bonjour,
je dis la Hélène. Dernière parce qu'il y a une bonjour, portion Isabelle. De la commission qui a décidé de se retirer, qui nous abandonne. Il dit adieu.
Oh, abandonner, c'est un bien grand mot.
Hélène, c'est pour des raisons professionnelles. Oui, en oui, passant, on les comprend très, très bien. Là. À Hélène, qui est femme d'affaires au chapeau très, très, très multiple.
Nombreux chapeaux.
Oui, ouais. Maman, grand-maman.
Oui, grand-maman. Ça, c'est du grand bonheur. Mais en ce qui concerne le travail, c'est du bonheur aussi. Mais à un moment donné, c'est difficile là, de concilier tout ça.
Alors, sache qu'on te remercie. Là, j'aurai l'occasion de le faire à la fin de la chronique, évidemment. Mais on est bien content d'avoir partagé ce micro avec toi.
Bien, c'est réciproque. Soyez-en assurés.
Une grande chance aussi de faire mes premiers pas à la radio. À
oh, ça a tellement été agréable, Isabelle. Tu es quelqu'un d'excessivement brillant. Puis en plus, t'es allumé sur plein de dossiers, t'as des contacts partout, c'était vraiment agréable pour moi. Et je pense que nos différences faisaient en sorte, en tout cas j'ose l'espérer, qu'on faisait des chroniques intéressantes.
Et parlant de différences, mesdames, l'écart salarial entre les hommes et les femmes qui s'était rétréci a recommencé à augmenter en 2018 selon l'annuaire québécois des statistiques du travail. On a publié quelque chose là, hier et l'écart salarial est maintenant de 3 $ l'heure en faveur des hommes.
Oui, 200 $ par semaine, grosso modo. Et il y a certains... Ben, est-ce que j'ai été surprise? Pas vraiment. Est-ce que je suis déçue? Oui, parce que c'est la première fois dans les dernières années que l'écart augmente encore à nouveau. Puis, tu sais, les raisons pour lesquelles on peut expliquer ça, c'est toujours des raisons qui reviennent d'année en année. C'est-à-dire le choix de carrière des femmes qui serait moins payant. Tu sais, les femmes sont beaucoup dans le secteur de l'enseignement, de la santé.
C'est possible.
Ça, malgré le fait qu'il y a une grande proportion des étudiants à l'université qui sont des femmes.
Ah, très grande proportion,
c'est
oui.
Ça.
Oh, oui.
Il faut aussi voir la perspective. Hein. Si on le fait, c'est 3 $ de l'heure de différence au niveau du salaire horaire jusqu'à 200 $ par semaine.
Mais ce sont
si
des moyennes en
ça
passant.
Sur une année, là, c'est des montants qui sont entre 6 000 et 10 000 $. Fait que dans un budget familial, là,
ça paraît,
mais c'est le montant que tu pourrais attribuer à ton REER, à ta retraite. Donc, c'est des montants dont se privent les femmes pour économiser, pour préparer leur retraite, pour assurer, dont elles ne bénéficient pas. Par rapport aux hommes pour faire face à des imprévus, tout ça. Donc, c'est quand même une différence importante dans le budget annuel qui rend les femmes qui sont sur le marché du travail quand même plus précaires et plus vulnérables qu'un homme, peu importe leur niveau de revenu.
C'est ça. Puis un autre facteur important, c'est que les femmes, particulièrement bien, les gens qui sont payés à l'heure, font moins de temps supplémentaire, donc des heures payées à temps et demi, que les hommes, et ça pour une raison, je sens que Steve devant moi, Isabelle, va sauter sur sa chaise, mais c'est à cause de l'iniquité des tâches domestiques. La femme va souvent choisir, plutôt que faire du temps supplémentaire, de retourner à la maison parce qu'elle a des responsabilités là, alors que les hommes ont plus de flexibilité et vont accepter davantage de faire du temps supplémentaire.
Je maintiens mon point.
On va peut-être se sentir moins coupable.
Je pars pas de gaz ce matin, je maintiens quand même mon point que c'est une affaire qui appartient un peu plus au passé qu'au présent, alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes faire des choix de carrière en fonction de la famille.
C'est peu comparativement quand tu compares avec les femmes. Mais on dit encore statistiquement, parce que j'ai fouillé suite à notre dernière chronique, c'est 75 % de plus. T'sais, s'il y a un partage de tâches sur 100 % les femmes en font 75, on est loin de l'équité, là.
On n'est pas encore rendu. Puis, tu sais, la question du salaire aussi a un impact parce que si tu veux que
Isabelle,
les...
Isabelle, tu devrais voir la face.
Je l'empêche de répondre. Mais si tu veux donner l'opportunité aux parents de faire le vrai choix qu'ils veulent faire en fonction de la répartition des tâches ou de qui prendra le congé parental ou pas, il faut qu'il y ait un équilibre dans les salaires. Parce que là, si parmi tous les critères dont les parents tiennent compte, il y a la différence de revenus, tu dis, bien, à salaire égal, l'homme fait plus un revenu plus important que la mère, bien là, ça devient plus difficile d'un point de vue d'organisation de la famille, que ce soit l'homme qui prenne un congé parental plus long parce qu'il se prive d'une plus grande portion de salaire. Donc, tu sais, tout est dans tout à un moment donné, puis ça oriente aussi les choix que font les familles puis la capacité des pères de prendre tout l'espace qu'ils voudraient prendre parce que je pense plus que c'est une question de volonté, c'est une question aussi de contexte, puis tout l'espace qu'ils voudraient prendre à la maison, ils le prennent pas. L'autre chose qu'il faut tenir en compte aussi, c'est qu'il y a encore un enjeu quant à la présence des femmes dans les postes de haute direction, sur les conseils d'administration, dans les postes de gestion, dans les entreprises. Donc, évidemment, ces fonctions de gestion-là sont des fonctions où les salaires sont beaucoup plus élevés, puis probablement que ça contribue à l'écart entre les hommes et les femmes, le fait que les femmes, malgré qu'elles sont plus nombreuses à l'université, n'ont pas encore accès aux... également
au poste
de gestion
de verre, là,
par rapport
mais
par
les
rapport
femmes
aux
demandent
hommes.
Moins que les hommes.
Absolument.
Que ce soit des augmentations.
Moi, c'est là où je voulais en venir, bon, Isabelle et Hélène, parce que c'est super intéressant, puis il y a plein de points où vous avez tout à fait raison, mais avez-vous peur d'exiger, mettons, à job égal, là, est-ce que les femmes ont encore peur de demander ce qu'elles méritent?
Je parle pas de moi, là, parce que je dois avouer que je suis un petit peu atypique.
Oui.
Mais ben moi, je vais parler de moi, là. Ça m'a pris du temps avant d'exiger. Puis, pendant un certain temps, là, les promotions que j'ai obtenues, je les ai obtenues parce que d'autres, souvent des hommes, ont fait des demandes puis m'ont poussé vers le haut par la même occasion. Là. Moi, je suis pas absolument coupable.
Parce que
de
ça
ne
fait
pas,
aussi partie, je ne sais pas pourquoi, là. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça fait encore partie aussi de la réponse. C'est pas l'entièreté, mais c'est une portion de la réponse.
Définitivement. Absolument. Moi, je regarde au bureau, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui travaillent chez nous, des femmes excessivement compétentes, brillantes et tout. Mais si je compare, par exemple, les hommes vont venir cogner à ma porte beaucoup plus souvent pour avoir soit une augmentation de salaire, soit une promotion que les filles. Puis souvent, les filles, je leur dis « faites-vous confiance ».
Exact.
Go,
ah oui, complètement.
Et on a encore besoin de faire ça. Puis moi, personnellement, la première, je suis encore un peu surprise de me dire qu'en 2019, on se doit encore. Tu sais, il y a une question de confiance. Est-ce que c'est encore une question d'éducation? J'en
une question
doute,
d'ambition.
D'ambition.
Aussi, assumer ses ambitions.
Oui, absolument. Il ne faut pas avoir peur de s'imposer.
Autre dossier, on va clore là-dessus. SNC-Lavalin, le conseiller principal de Justin Trudeau, qui a démissionné hier.
Écoute,
on voulait apaiser, mais ça n'a pas eu cet effet-là du tout.
Cette crise prend des proportions démesurées. D'abord, parlons de Gerald Butts. Gerald Butts, là, c'est l'alter ego de Justin Trudeau. Il n'y aurait pas de Justin Trudeau sans Gerald Butts. Ils se connaissent depuis l'université. Ils ont... Moi, je dis souvent qu'un politicien, c'est le résultat d'un travail du travail d'une petite équipe. Ben, c'est probablement Gerald Butts qui leadait, qui était le chef de l'équipe Justin Trudeau, qui
était sa
contrôlait
matière grise,
tout, qui était sa matière grise. C'est lui qui a écrit le programme. C'est lui qui a contribué à recruter un très grand nombre de candidats, dont Mme Wilson-Raybould, ce qui est quand même ironique. Donc, qu'il choisisse de démissionner aujourd'hui, c'est quand même une décision très, très... c'est un onde de choc là, dans le milieu politique. C'est pas encore clair hein, pourquoi il le fait. Est-ce qu'il le fait parce que... sur le fond, est-ce qu'on saura la vérité éventuellement et puis on saura que finalement il y a eu des pressions et qu'il le fait maintenant pour protéger Justin Trudeau? Ça peut nous rappeler hein, l'épisode Le Bouillonnec, là, le Bouillonnec qui a construit la CAQ avec François Legault et quand il est devenu un peu trop radioactif là, au début de la campagne électorale à cause de son engagement dans une compagnie qui faisait des prêts avec des intérêts très importants. Il a choisi de se retirer pour ne pas nuire à François Legault. Est-ce que c'est ce cas-là ici ou est-ce qu'on entend toutes sortes de scénarios? Est-ce qu'il y avait des tirailles à l'interne dans le caucus ou dans le conseil des ministres à l'égard du chef de cabinet, parce qu'un chef de cabinet ou un secrétaire général dans ce cas-ci, c'est un personnage qui se fait souvent détester des élus. Donc, est-ce qu'il y avait déjà une volonté de partir puis que là, on profite de l'occasion pour essayer de se sortir de cette crise-là? On le sait pas, mais il y a quand même de nombreuses questions qui vont se poser à partir d'ici.
C'est ça.
Est-ce qu'il peut survivre Justin Trudeau sans Gerald Butts? Puis s'il survit, qu'est-ce qu'il va être sans celui qui était le penseur de tout son personnage?
Sa petite voix.
On dit qu'il quitte parce qu'il veut avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, mais en même temps, peu importe les raisons, partir dans une année électorale quand tu as un poste aussi important auprès du premier ministre, c'est pas de bon augure. Et là, vous le savez, il y a des rumeurs, bon, je pense qu'ils vont être étouffés assez rapidement, mais des rumeurs qu'on enclenchera des élections aussitôt que le printemps. Une chose est sûre, c'est que pour Justin Trudeau, faut pas que ce qu'on appelle communément le scandale de SNC-Lavalin perdure trop longtemps.
Puis en même temps, ça montre à quel point ce scandale de SNC-Lavalin illustre le clivage entre le Québec puis le Canada. Ouais. Tu sais, au Québec, on a accepté que SNC-Lavalin, il fallait le sauver. Je pense que c'est largement répandu qu'il fallait que le gouvernement agisse. Au Canada, c'est pas SNC-Lavalin. La crise, c'est vraiment une crise d'éthique.
C'est ça.
Une crise où le gouvernement serait intervenu dans l'indépendance judiciaire. Donc, c'est deux crises complètement différentes. Et comment est-ce qu'il pourra réussir à s'en sortir? Puis ça aura des impacts différents, si ça en a, sur l'élection ou sur les débats. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler.
Dans les deux cas, j'ai envie de dire, ce n'est que nos revoirs, autant pour Gerald Butts qu'Hélène Gravel. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir été des nôtres.
Je prends juste 30 secondes pour remercier toute l'équipe. Steve, toi en premier lieu, là, parce que, mon Dieu, qu'on a eu du plaisir. Puis j'ose espérer qu'on aura encore dans le futur. Isabelle, je le disais tout à l'heure, merci beaucoup.
Ça a été
le patron, Jocelyn Proulx, qui m'a fait confiance. Puis toute l'équipe, vous êtes des gens extraordinaires. Puis bien sûr, les auditeurs, merci à vous.
Et tu es une femme inspirante et un modèle pour les femmes qui veulent avoir une carrière.
Merci beaucoup à vous deux. Merci, à plaisir, Hélène.
Merci, Hélène.